culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour moi de m'inviter chez toi, dans ton salon, dans ta voiture ou même pendant ton jogging, pourquoi pas, hein, pour passer une heure de programme tous ensemble. Un programme qui se veut partage, un programme qui se veut sincère, qui invite à la réflexion. Et pour cela, je suis entouré de Romina et de Amandine. Bonjour.
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 Et j'ai le plaisir d'avoir Pierrick Avelin. Ouais, on peut me dire maintenant, tu es un habitué, clairement. Salut, comment tu vas?
Bonjour à tous, ça va très bien, très content d'être là, merci.
Mais nous aussi.
On est content de t'avoir parmi nous.
Les dernières fois où tu es venu dans l'émission, c'était pour nous parler de comment Dieu se révèle à Marie, puis aux mages et aux bergers. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous propose qu'on puisse réfléchir spécifiquement de Noël, cette fête, pour nous. Quel sens ça peut avoir? Est-ce que c'est juste quelque chose de commercial ou est-ce qu'on n'a pas autre chose à vivre à ce moment-là?
Ah, sympa. J'ai hâte.
Moi aussi. Merci déjà.
Et avant de continuer, je vous propose de vous immerger dans l'ambiance et écouter notre chantème depuis deux cultes déjà. Racontez-moi du groupe Sweet Witness.
Merveilleux.
Alors, Brian, nous avons l'habitude, en début d'émission, de partager des idées de ce que l'on met en place dans nos vies pour passer du temps avec Dieu dans notre semaine. Qu'est-ce que tu as choisi de nous partager aujourd'hui?
Alors, moi, j'aimerais partager quelque chose que j'expérimente depuis un moment au travail. Ben voilà, moi, ça fait 10 ans que je travaille en tant qu'aide-soignant. Et avec mon équipe, on essaye toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. On se consulte régulièrement pour relever des problématiques de santé que l'on peut rencontrer. On se donne un coup de main pour aider à faire marcher un patient, ou on s'organise pour que le résident puisse suivre sa journée sans trop d'embûches liées à ses besoins. Ces visages que je côtoie chaque jour, et je ne parle pas que des soignants, je parle des agents du service qui préparent les repas, ou les aides ménagers soucieux de la propreté de l'environnement, le service de la lingerie qui s'occupe de la gestion liée au vestimentaire, les techniciens de la maintenance qui agissent pour qu'il n'y ait plus de panne d'électricité dans les chambres ou panne d'eau. Tous ces visages contribuent à ce que le résident puisse passer une belle journée, une journée avec le moins d'encombre possible. Mais avec le temps, j'observe que tout n'est pas toujours rose. Sous certains sourires de collègues, ben, ça peut cacher des fois de la tristesse. Après une aide auprès d'un résident, il peut ressortir beaucoup de fatigue. Derrière des discussions simples entre collègues pendant la pause, cela peut cacher des problèmes familiaux, des deuils. Et j'en passe. Évidemment, toutes ces choses restent dans le domaine du privé. Il n'y a pas d'étalage de vécu personnel dans notre travail. Mais je me dis que Dieu qui voit les cœurs, lui, il peut agir. Il donne la force aux personnes fatiguées, du soutien dans l'épreuve, de la paix dans nos turbulences. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et le verset 8, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors même si je ne sais pas ce qu'est en train de vivre mon collègue à l'instant T, j'ai pris l'habitude de prier avant chaque prise de poste et de remettre tous mes collègues avec qui je vais travailler, et je ne parle pas que de l'équipe soignante, mais tous les soignants d'un côté élargi. Pour moi, confier mon équipe dans mes prières, c'est de demander à Dieu qu'il puisse me donner la force malgré les aléas de la vie, et je lui demande d'être un soutien pour toute l'équipe. Je prie aussi qu'il puisse m'inspirer à être une oreille attentive, à être vraiment un sourire pour l'autre, à être cette tapote sur l'épaule pour encourager mon collègue à être disponible si l'autre a besoin de moi. Je prie pour être une personne bienveillante auprès des résidents et que cette même personne soit accompagnée par Dieu pour vivre cette nouvelle journée. Cette pensée, cette prière me permet de commencer mon poste dans une attitude positive et tournée vers l'autre.
Ouais, c'est vrai qu'au niveau du travail, on ne sait pas toujours ce que vive l'autre, ce que vivent nos collègues finalement. Et prier pour nos collègues, pour les personnes avec qui ou pour qui on travaille, ça change notre regard sur les choses et sur les autres. Et je pense que c'est effectivement une bénédiction pour nous et puis pour les autres. Donc moi, en tout cas, ça me parle ce que tu fais. J'essaye aussi de le vivre et je pense qu'on a vraiment à changer les choses si on se met dans cette dynamique-là. Merci pour ce partage.
C'est clair.
Et toi, Romina, quelle est la promesse du jour?
Alors, quand je pense à Noël et à ce que cela signifie pour moi, je pense tout de suite à cette promesse qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, qui dit « Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Alors déjà, cette dernière phrase, Dieu avec nous, c'est super. J'aime beaucoup ce verset qui montre que Dieu est venu se mettre à notre place, à notre niveau, quoi. Et être avec nous, et ça fait montrer son amour pour nous. C'est qu'en fait, nous avons vraiment un Dieu qui s'inquiète de notre sort et qui s'engage à 200%, si ça existe, à 300%, voilà. Il a tout donné, quoi.
Amen, ouais, j'aime beaucoup ce verset, et comme toi, j'aime beaucoup ce nom Emmanuel. Je trouve qu'il est très fort, Dieu est avec nous. Et justement, ça me faisait penser à une chanson qui s'appelle « Don des cieux » de Julien Adam, qui parle justement de cet Emmanuel. Je vous laisse écouter.
C'est dans ce choix d'offrir ton fils que je découvre la valeur de ma vie. Par cette croix, je réalise que tu me vois comme un trésor de grand prix. Merci pour le don des cieux, Emmanuel, roi éternel. Rien n'est plus beau à mes yeux, Emmanuel, roi éternel. C'est par ce nom que j'ai reçu la guérison, la liberté, le salut. Merci pour le don des cieux, Emmanuel, roi éternel. Rien n'est plus beau à mes yeux, Emmanuel, roi éternel. Merci pour le don des cieux, Emmanuel, roi éternel. Rien n'est plus beau à mes yeux, Emmanuel, roi éternel.
Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un témoignage d'une histoire vraie qui se passe dans le nord du Tchad en 1979 dans la ville d'Ébéché. C'est une histoire qui est donc tirée du livre La Caravane de Daniel Gounon. Des enfants jouent devant des maisons traditionnelles à toit plat, dans l'ombre clairsemée des grands eucalyptus, une éolienne teinte dans le vent. Au loin, aux confins de la plaine sablonneuse plantée de rares épineux, des collines dessinent l'horizon d'un ciel toujours bleu. Bakan Asalam, le lieu de la paix, est le nom de ce village d'enfants. 80 enfants trouvés, abandonnés ou orphelins de mère à la naissance. Ceux qui ont une famille y retourneront une fois tirés d'affaire. les nouveau-nés et les tout-petits sont à la pouponnière. Les plus grands, en famille de 5 ou 6 enfants avec des mamans tchadiennes. Je m'y retrouve lorsqu'arrive le plus jeune, au mois de septembre de cette année-là. Un inconnu se présente vêtu de l'ample boubou traditionnel. Il explique que sa femme est morte en accouchant d'un petit garçon. Il soulève alors son vêtement et nous découvrons un minuscule nouveau-né, couché sur un petit plat tressé, posé dans le creux de son bras. Un bout de tissu usagé est noué par les deux coins autour du cou du bébé pour le vêtir. Il s'appelle Youssouf et pèse 1700 grammes. Marguerite a eu l'idée de créer ce village d'enfants qu'elle dirige avec Erika. Elle prend Youssouf dans ses bras. En arabe, elle explique au père que c'est au nom du Christ et d'un amour pour tous les hommes que le village existe. Elle s'occupera de Youssouf jusqu'à ce qu'il puisse le reprendre. La guerre éclate dans les 3 mois plus tard. Je suis alors reparti. Marguerite et Erika sont restées malgré les injonctions répétées des autorités demandant aux étrangers de quitter la région en raison du danger. Comment pourraient-elles les abandonner? Des opposants au régime ont plusieurs fois attaqué l'armée basée en ville. Il y eut beaucoup de morts. Les routes sont dangereuses. L'avion n'atterrit plus. Le village d'enfants est situé à la sortie de la ville, sur la route vers l'est d'où viennent les attaquants. C'est un miracle que les obus tombés dans la cour lors de la dernière attaque n'aient fait aucune victime. Les liaisons de la capitale étant coupées, l'arrivée des fonds indispensables est interrompue et les réserves de la maison s'amenuisent. Plus de courrier pendant plusieurs mois. Envoyé de France un camion de vivres, vêtements et matériel destinés au village d'enfants n'est jamais arrivé. Certainement intercepté par des troupes, il doit maintenant servir au transport de soldats et d'armement. Petit à petit, tout ce qui n'est pas indispensable a été vendu. Tôles, planches, chevrons destinés à des travaux, la vieille Renault 4, une radio, différents objets. La plupart des enfants ont été renvoyés à leur famille. Il reste 16 filles et garçons orphelins. Il y a 2 jours, sans rien dire, les plus grands enfants ont emporté au marché de la ville des journaux, des boîtes et des bouteilles vides pour les vendre. Tous fiers, ils sont revenus avec quelques pièces. Des voisins ont aussi offert plusieurs victuailles. Justement, une voisine vient d'apporter des œufs. Marguerite a fait cuire du riz et prépare une omelette. Avant le repas, elle relit des versets du psaume 33 qu'elle a mis en musique. Le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Elle explique aux grands enfants la réalité du Père Céleste et son amour pour eux. On chante le nouveau cantique, puis Erika prie.
Seigneur, merci pour la nourriture d'aujourd'hui. Mais demain c'est Noël, nous aimerions avoir un bon repas avec de la viande et du fromage, et aussi des cadeaux.
Les enfants mangent tout en bavardant.
Si le camion était arrivé, nous aurions tout ce qu'il nous faut. Les soldats, ils ont tout mangé. Des soldats libyens sont arrivés en ville. Moi je les ai vus, ils tiennent leurs fusils comme ça, comme s'ils allaient tirer. Pan, pan, oh, j'ai peur.
Bon, allez, allez jouer maintenant,
dit Erika.
Et mettez de l'ordre pour la fête. Oh là là, que ferions-nous s'ils étaient encore 80 ?
Pense-t-elle. Quelques heures plus tard, les enfants font irruption dans la pièce.
Il y a un soldat dehors, il regarde dans nos cases.
Brusquement, la porte s'ouvre et un officier libyen apparaît.
Assalam alaikum, alaik assalam. Que se passe-t-il ici ? Qui êtes-vous ? Qui sont ces enfants ?
Demande le militaire d'une voix rude.
Nous sommes des missionnaires et nous avons la charge de ces orphelins.
Répond Marguerite calmement.
Pourquoi faites-vous cela ?
Ajoute-t-il, toujours en arabe.
Parce que nous sommes les servantes de Dieu et de tous les hommes.
J'ai entendu parler de vous en ville. Montrez-moi ce que vous faites.
S'ensuit la visite des lieux, puis il repart sans rien ajouter. C'est le matin de Noël. Des guirlandes un peu défraîchies décorent la maison. On entend soudain le grondement d'un camion et tout le monde se précipite dans la cour. C'est l'officier venu la veille. Les soldats sautent de l'arrière du véhicule et commencent à décharger des cartons qui s'entassent bientôt par terre. L'officier s'avance et tend une enveloppe.
« C'est pour acheter de la viande, dit-il. Mes soldats ont collecté cet argent entre eux. »
Marguerite, très émue, le remercie. Il secoue la tête et s'en va. Dans l'excitation générale, les colis sont transportés sur les têtes jusque dans les maisons. Il y a du riz, du sucre, de la farine, des biscuits, des rations de l'armée et même des bottes de fromage suisse avec des petits drapeaux.
Appelez nos voisins pour la fête. La Bible dit vrai. Dieu a fait un miracle. Gloire à Dieu.
Imagine la joie de ces enfants dans ce village, de savoir qu'ils vont pouvoir festoyer. Ils auront à manger. Ils vont partager de bons moments. Ils vont chanter des cantiques et des psaumes. Au milieu de la tempête, ils vont se concentrer sur les choses positives qui les entourent. Je t'invite à imaginer ce qu'a dû être cette fête à la gloire de Dieu. Cette fête de paix, d'espoir. C'est une fête qui peut te toucher.
Merci beaucoup pour ce témoignage brillant, ça me touche parce qu'on entend souvent dire que Dieu ne fait plus de miracles en fait. Et ce témoignage prouve le contraire. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on vit un peu dans un monde différent de celui de ses enfants. Nous avons la sécurité sociale, le confort et eux vivent vraiment dans la précarité. Et voilà, ça me touche de savoir que Dieu agit, que Dieu fait des miracles encore. Merci. Je me tourne maintenant vers Pierrick qui va partager avec nous un message. Merci Pierrick déjà de ce que tu vas nous proposer.
Merci, très content d'être avec vous et de pouvoir réfléchir ensemble sur ce qu'est Noël. Cette fête de Noël qui est ce temps qui nous fait rêver, ce temps presque magique. Tous les lampadaires ont revêtu les habits de lumière. Chacun y va de son originalité, des designs les plus originaux aux lumières les plus psychédéliques. C'est le temps des cadeaux aussi, hein. Il faut en trouver pour tout le monde absolument. Le temps, c'est vrai, assez stressant des préparatifs du ou des fameux repas de Noël, ça dépend de la situation familiale de chacun, bien que cette année, la situation sanitaire risque de nous rendre les choses un peu plus compliquées. Mais un temps aussi, c'est vrai, Noël, pour d'autres, de solitude, de souffrance. Car oui, Noël peut être une période de détresse pour ceux qui sont seuls ou ceux qui sont dans le besoin. Mais alors, qu'est-ce que Noël exactement ? Pour quelles raisons notre société se transforme-t-elle ainsi chaque année ? Dans son journal L'Hebdo, il y a quelques années, il y avait un article qui disait ceci. Tout fout le camp. Tout sauf Noël, fête increvable entre toutes, qui a survécu aux multiples accusations de bondieuserie puis de mercantilisme. Impossible d'y échapper. Vous auriez beau fuir sur la lune dès le 15 novembre, les devantures des commerces, autant qu'un coup de fil d'une grand-mère inquiète se demandant quoi offrir à ses petits-enfants, vous rappellent à la réalité des choses. Noël est chez les confiseurs, sur les places des marchés, dits de Noël. Dans les pages de vos magazines, les rayons des supermarchés et les rues noyées du vin chaud servi par des pères Noël à la barbe de travers. Noël est chez vous. Quel enfant ne prépare pas sa liste au Père Noël dès les vacances d'automne enterrées ? Bref, vous êtes cerné. Pour l'auteur Vincent Bouffard, cela prouve que les liens familiaux sont encore le ciment de la société, quoi qu'on en dise. Quant à son aspect religieux, pour lui, ça fait partie de la culture européenne. Mais quand même, pourquoi un tel engouement ? Alors si vous demandez autour de vous quel est le sens de Noël, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens le fêtent, vous aurez autant de réponses qu'il y a de personnes différentes. Pour les uns, il s'agit simplement de cadeaux, pour d'autres de bons moments passés en famille, ou simplement une tradition. Là où certains seront pour, d'autres seront contre, en disant qu'il s'agit uniquement d'une fête commerciale, ou alors qu'il ne faut surtout pas la vivre en tant que chrétien, c'est une fête païenne à l'origine. Tout juste enfin, certains se rappelleront de la fameuse crèche de Noël avec un petit enfant dans un berceau. Comment il s'appelle déjà ? Ah oui, Jésus ! Intéressant au passage de voir que vous prononcez le nom de Jésus tout au long de l'année et on vous regarde de travers. Vous dites le nom de Jésus dans le temps de Noël et cela passe sans sourcillement. Peut-être qu'il y a une opportunité pour partager le vrai sens de cette fête. Parce que d'où vient Noël, du coup ? Nous savons qu'il s'agit pour nous de fêter la naissance de Jésus, la venue de Christ sur terre. Mais est-ce qu'on en parle dans la Bible de cette fête précisément ? Non. La fête de Noël, c'est vrai, a pour origine une fête païenne. On ne sait pas vraiment ce que faisaient ou fêtaient les chrétiens du 1er siècle, mais il faut remonter à l'empereur Constantin. Au 4e siècle, l'empereur Constantin, c'est l'empereur romain qui se convertit au christianisme et qui veut commencer à imposer le christianisme à tout son peuple. Le problème, c'est que il a des préoccupations religieuses, mais il a aussi des préoccupations politiques. Il ne veut pas créer des grosses divisions au sein de son empire, donc il va essayer d'y aller cool, d'aménager les choses. Et à l'époque, on fêtait le culte au dieu soleil, au solstice d'hiver. C'était la grande fête avec beaucoup de choses qui se faisaient pour marquer la fin du cycle et le retour du soleil. Et Constantin, plutôt que de dire « on va tout changer et à la fois qui vous adorez et le jour, on va garder le solstice d'hiver, mais vous allez adorer cette fois-ci la naissance de Jésus, sa venue sur terre. » Alors pourquoi c'est peu probable que Jésus soit né un 24 ou 25 décembre ? Parce qu'on ne fait pas paître des moutons à ce moment-là, en plein hiver. C'était un autre moment de l'année que les bergers le faisaient. Et petit à petit, il va y avoir plein de petits ajouts au cours de l'histoire. Le sapin vient probablement d'une influence de Suède avec Santa Claus. Et puis, il y a d'autres hypothèses. Pour les boules sur l'arbre, certaines hypothèses sont d'ailleurs assez terribles. Certains disent que ça viendrait des Huns, les Mongols, qui, après avoir tué leurs ennemis, ils avaient la triste réputation, effectivement, de couper la tête des opposants, de les accrocher à leurs arbres. Et on aurait ramené cette pratique-là. Comment s'appellent les rois mages ? On l'a vu la dernière fois, on en fait des rois et on dit qu'ils sont trois, Melchior, Gaspard et Balthazar. Mais dans la Bible, rien n'est dit, on nous dit juste que ce sont des mages, on ne donne pas de nom. Il y a même d'ailleurs plusieurs traditions avec 4 mages, 12 mages. Enfin bref, là encore, beaucoup de diversité, beaucoup d'ajouts au cours de l'histoire. Dans la Bible, on ne parle pas d'un bœuf ni d'un âne, on ne le dit pas, précise pas. Il y avait sûrement des animaux, mais on ne sait pas exactement lesquels. La crèche d'ailleurs était probablement plus une grotte avec une mangeoire plutôt taillée dans la pierre que tout en bois. Et enfin, le Père Noël tel que nous le connaissons a été démocratisé par Coca-Cola bien sûr. On avait l'habitude de représenter Saint-Nicolas vert ou rouge, ça dépendait, il y avait plusieurs couleurs. Mais comment vendre des boissons fraîches en hiver, créant un Père Noël rouge et blanc, et c'est ça qui a démocratisé un petit peu le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est vrai qu'une telle diversité, ça a de quoi un peu nous rendre confus, nous perdre. On se dit, mais est-ce que je fais bien de fêter ça ? C'est quoi, en fin de compte, le vrai sens, si on doit le réduire dans sa plus, dans son message le plus simple ? Eh bien, comme dans beaucoup de choses, le problème, ce n'est pas le geste en tant que tel, mais le sens qu'on y met derrière. Et pour découvrir le vrai sens de Noël, permettez-moi de l'illustrer avec un simple objet que je ne pourrais pas forcément vous montrer là si vous nous écoutez, mais quand je l'aborde avec les jeunes, j'aime bien prendre ces tentes deux secondes, vous savez, qu'on ouvre, et j'aime bien illustrer Noël comme étant une simple tente qui est posée, qui est mise en place. Alors ça peut sembler étonnant de résumer Noël à une tente, mais c'est ce que le texte biblique nous dit. En effet, Noël, nous l'avons vu, c'est la fête de la naissance de Jésus, la venue de Jésus sur terre, et voici en quels termes la Bible nous dit cela. On est dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, et je vous lirai simplement le verset 14. Ça vous intéresse chez vous de lire plus, sentez-vous libre de le faire, mais je me concentrerai sur le verset 14. La parole est devenue chair, et elle a fait sa demeure parmi nous. Littéralement, elle est venue planter sa tente parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. La parole est venue planter sa tente parmi nous. Noël, c'est la fête de Dieu qui se fait proche. De Dieu qui vient dans notre monde pour vivre à nos côtés, pour nous rejoindre. Un Dieu qui doit planter les sardines même si le sol est trop dur et qu'elles se tordent. Un Dieu qui va venir nettoyer sa vaisselle avec nous. Un Dieu qui va lutter contre les moustiques et qui devra sortir dans le froid de la nuit si besoin est. Un Dieu qui chantera avec nous autour du feu de camp. Ça peut nous faire sourire tout ça si on a vécu des fois du camping ou des week-ends avec des jeunes. Mais c'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Un Dieu qui est venu vivre parmi les hommes. Vivre toutes les joies, mais aussi toutes les peines, toutes les difficultés auxquelles les hommes font face au quotidien. Un Dieu qui se fait proche pour vivre aux côtés de ses enfants. Ce sens fort de Noël, d'ailleurs, on va le retrouver dans plusieurs des récits autour de cette fête. Il y a quelques années maintenant, déjà, au Terreau, à Lausanne, il y avait une pièce de théâtre qui faisait salle comble pendant plusieurs représentations, et elle avait pour titre « La légende du quatrième roi mage ». Cette pièce était basée sur une légende des chrétiens coptes orthodoxes du quatrième roi mage, justement. Et je trouve que ce récit résume assez bien cette idée-là. Voici comment cette légende va. Les sages de l'Orient apportèrent l'or, l'encens et la myrrhe pure. Une vieille légende raconte que lorsqu'ils déposèrent leur trésor, l'enfant ne voulut pas sourire. Marie était très honorée par l'encens qui brûlait, comme elle l'avait vu brûler dans le temple de Jérusalem, et les yeux pleins de larmes, elle cacha la myrrhe dans son sein. Mais l'enfant ne tendit pas ses petites mains vers l'or éclatant. La fumée fit tousser ses petits poumons, et il se détourna de la myrrhe et embrassa les larmes dans les yeux de sa mère. Les trois saints rois se relevèrent et prirent congé avec le sentiment de gens qui n'ont pas été appréciés selon leur mérite. Mais quand la tête et le cou de leur dromadaire eurent disparu derrière les montagnes, quand le dernier tintement de leur harnais eut expiré sur la route de Jérusalem, alors parut le quatrième roi. Il devait apporter de Perse trois perles précieuses. Mais il arrivait trop tard. Les autres rois étaient partis. Il arrivait trop tard et les mains vides. Il n'avait plus de perles. Il ouvrit lentement les portes de l'étable sainte où se trouvaient le Fils de Dieu, la Mère de Dieu et le Père nourricier de Dieu. Le jour tombait, l'étable devenait sombre et une odeur légère d'encens flottait encore. Joseph retournait la paille de la crèche pour la nuit. L'enfant Jésus était sur les genoux de sa mère. Elle le berçait doucement. Lentement, en hésitant, le roi de Perse s'avança, puis il se jeta aux pieds de l'enfant et de sa mère. Lentement, en hésitant, il commença à parler. « Seigneur, dit-il, j'avais une offrande pour toi. Trois perles précieuses, grosses comme un œuf de pigeon, trois vraies perles de la mer Persique. Je ne les ai plus. Je suis venu à part des trois autres rois. Ils marchaient devant moi sur leur dromadaire. Je suis resté en arrière dans une hôtellerie sur le bord du chemin. Oh, j'eus tort. Quand j'entrai dans la salle des voyageurs, j'aperçus un vieillard tremblant de fièvre, étendu sur le banc du poêle. Nul ne savait qui il était. Sa bourse était vide. Il n'avait pas d'argent pour payer le médecin et les soins qui lui étaient nécessaires. Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris une perle de ma ceinture et l'ai donnée à l'aubergiste pour qu'il lui procure un médecin, lui assure les soins et s'il mourait, une tombe en terre bénie. Le lendemain, je repartis, je poussai mon âne autant que possible pour rejoindre les trois autres rois. Et soudain, j'entendis des cris venant d'un fourré. Je sautai de ma monture et trouvai des soldats qui s'étaient emparés d'une jeune femme et s'apprêtaient à lui faire violence. Ils étaient trop nombreux, je ne pouvais songer me battre avec eux. Oh Seigneur, pardonne-moi encore une fois, je mis la main à ma ceinture, pris ma seconde perle et achetai sa délivrance. Mais à présent, il ne me restait plus qu'une perle, mais au moins je voulais te l'apporter, Seigneur. Il était plus de midi, avant le soir, je pouvais être à Bethléem à tes pieds. Mais c'est alors que je vis une ville à laquelle les soldats d'Hérode avaient mis le feu. Je m'approchai et trouvai les soldats d'Hérode tuant tous les garçons de 2 ans et au-dessous. Près d'une maison en feu, un grand soldat balançait un petit enfant nu qu'il tenait par une jambe. L'enfant criait, se débattait. Le soldat disait « Maintenant je le lâche et il va tomber dans le feu ». La mère poussa un cri perçant. « Seigneur, pardonne-moi. » Je pris ma dernière perle et la donnai au soldat pour qu'il rendît l'enfant à sa mère. « Seigneur, c'est pourquoi me voilà les mains vides. Pardonne-moi. Pardonne. » Le silence régna dans l'étable. Quand le roi eut achevé sa confession, pendant un instant, il resta le front appuyé contre le sol. Enfin, il osa lever les yeux. Joseph avait fini de retourner la paille et s'était approché. Marie regardait son fils qui était contre son sein. Dormait-il ? Non. L'enfant Jésus ne dormait pas. Lentement, il se tourna vers le roi de Perse. Son visage rayonnait. Il étendit ses 2 petites mains vers les mains vides. Et l'enfant Jésus sourit. Il s'agit bien évidemment d'une légende, mais on y retrouve le vrai sens de la venue du Christ. Il est venu se faire proche des hommes et nous appelle aussi à être proches les uns des autres. Joyeux Noël!
Une fête de Dieu qui se veut proche. Merci Pierrick pour ce partage. Amandine, pour ce culte qui nous invite à revenir justement au cœur du message de Noël, que nous proposes-tu comme moment à vivre avec les enfants ?
Alors j'aimerais vous parler d'un film, un dessin animé pour toute la famille qui s'appelle L'Étoile de Noël. Est-ce que vous connaissez ?
Non.
Non,
non. Bah, toi, tu connais Brian, on l'a vu ensemble. Je vais te le rappeler.
Il y a déjà.
Alors, voici le synopsis officiel agrémenté de mes ajouts personnels. Donc, c'est l'histoire d'un petit âne courageux, beau, qui rêve d'une vie meilleure, loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure. Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par 3 chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres, ils doivent sauver Marie et son futur bébé des mauvaises intentions du roi Hérode. Beau et ses nouveaux amis suivent l'étoile, et ils vont ainsi devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée, celle du premier Noël. Je vous laisse écouter un petit extrait de ce film. Il s'agit du moment où notre héros, le petit âne beau, se fait plus ou moins adopter par un concours de hasard par Marie.
Marie, il y a d'autres plats à laver ?
Tu ne m'avais pas dit que tu avais un âne.
Hein ? Je n'en ai pas.
Il est blessé, le pauvre. Ne l'embête pas.
Eh oh ! Quelqu'un a perdu un âne !
Comment on pourrait t'appeler, mon grand ?
Je ne veux pas de lui chez nous.
Qu'est-ce que tu penses de...
Tu fais quoi, là ?
Boaz.
Tu lui donnes un nom ?
Qu'est-ce que tu en dis ? Beau.
Beau ? C'est très laid.
Beau, ça te va comme un gant, n'est-ce pas ? T'es pas d'accord ?
Oh oui, beau, c'est beau, j'adore.
Ravie de te connaître. Moi, c'est Marie.
Non, si tu lui donnes un nom, tu vas commencer à avoir de l'affection pour lui. Et dès que t'auras de l'affection pour lui, tu voudras le garder. Et s'il y a bien une chose qu'il est hors de question que...
Il aura assez chaud s'il dort ici.
L'année dernière, nous l'avions regardé à Noël en famille. Tout le monde avait apprécié, regardé, de ma nièce de 6 ans à l'époque, jusqu'à ma grand-mère de 85 ans, en passant par mes neveux adolescents. Il est évident que c'est une très libre interprétation de l'histoire biblique, c'est un conte inspiré de l'histoire biblique, mais chacun à son niveau a su être touché, interpellé par des choses différentes. Il y a 2 semaines, Pierrick, tu nous parlais du fait que parfois Dieu appelle des personnes à qui on ne s'attendait pas forcément, et ce film notamment peut faire réfléchir à cela.
Bon, ça a l'air super mignon et drôle. Merci pour la suggestion de film de Noël. C'est l'occasion aussi de partager avec nos enfants et puis de demander ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont retenu.
Oui, tout à fait. On peut inviter aussi les enfants à dessiner leurs scènes préférées ou colorier des dessins issus du film. On trouve facilement sur Internet des dessins, où, vous savez, ces dessins où il y a des numéros puis il faut les relier entre eux. Voilà, ça peut aussi engager une discussion sur la naissance de Jésus. Qui est ce beau bébé que tous ces animaux ont admiré, ont voulu aller sauver? Pour ma part, j'ai particulièrement aimé, en tant que musicienne, la bande-son du film. J'avoue m'être procuré le CD de la musique du film en anglais et je l'ai écouté en boucle, désolée à mon mari, pendant tout le mois de janvier, le pauvre. Il y a notamment une chanson qui s'intitule « We Three Kings », c'est arrangé par Kirk Franklin. Un artiste chrétien reconnu dans le monde du gospel et qui raconte justement avec beaucoup d'entrain et de joie l'histoire de ces rois mages qui veulent aller à la rencontre de ce nouveau roi, ce roi qui peut changer des vies. On va l'écouter ensemble et je vous recommande le clip de cette musique qui reprend beaucoup de scènes du film. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Et ainsi, si certains ou certaines d'entre vous ne maîtrisent pas l'anglais, parce que la chanson est en anglais, grâce aux images, vous allez pouvoir mieux comprendre ces paroles qui reprennent finalement cette histoire. Je vous laisse écouter cette musique dynamique. I'm looking for the star right now. I wonder where you are right now. Wait a minute, wait a minute. We're three kings of Orient time. Bearing gifts, we traverse so far. Field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Yes. Let's go. Born a king on Bethlehem's plain.
Gold I bring. Right now. Yes, sir. Come on.
Oh, you're so wonderful.
Hey.
You light up the night.
You're so royal.
Star, you're so royal.
And you're beautiful.
And your beauty is bright.
You're so beautiful.
You're worthy.
We want to follow you.
Still you're the sea.
We want to see you. We can't stop.
We won't stop until we see the light.
Let's go. I want to see
the light.
I'm looking for a star right now. Yeah. I wonder where you are right now.
Nous aimerions te partager, cher auditeur, auditrice, un texte qui fait écho notamment à ce que Pierrick a partagé avec nous. C'est « Viens chez nous aussi, s'il te plaît » de Jean-Jacques et Françoise Henriot, tiré du livre « Les ombres et la lumière ». Il dit ceci. « Jésus, tu es venu dans l'histoire il y a très longtemps, à mesure d'hommes, et là où tu es venu, des hommes, des femmes, des enfants furent transformés, soulevé d'espérance et d'amour et de foi.
Là où tu es venu, partout tu as inventé patiemment l'évangile. Là où tu es venu, des abîmés se sont raccommodés. Des terrassés se sont redressés. Des assombris se sont illuminés. Des silencieux sont devenus porteurs de bonnes nouvelles. Avec des pieds magnifiques, des immobiles comme de pierre se sont mis en marche comme des oiseaux.
Là où tu es venu, la douceur s'est mise à brûler dans son petit scintillement doux. Les murs se sont renversés, des cœurs se sont rapprochés, des vies se sont mises à brûler d'une flamme heureuse.
Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, viens aussi chez nous. Nous courons dans tous les sens à la recherche du nouveau, mais nous avons peur de changer vraiment. Nous courons après la carotte de l'argent, la carotte du plaisir, mais nous avons peur d'un profit que rien ne peut ruiner.
Nous crions à l'injustice et nous défendons bec et ongle tous nos privilèges. Nous disons liberté, égalité, fraternité et nous pensons chacun pour soi et tous pour moi.
Seigneur, s'il te plaît, viens chez nous aussi. Transforme nos cœurs et nos regards pour que l'autre ne soit plus un rival, mais un frère qu'on peut t'aimer. Seigneur, s'il te plaît, viens chez nous aussi. Transforme nos cœurs et nos langues pour qu'elles disent ce qui est utile à nos frères, ce qui leur fait du bien.
Seigneur, s'il te plaît, viens chez nous aussi. Transforme nos cœurs et nos mains pour qu'elles osent se salir au service de nos frères. Aujourd'hui, Seigneur, petit enfant, viens chez nous aussi, s'il te plaît.
Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Et la terre, Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit enfant ce soir pour changer notre vie en espoir.
Quelle belle chanson et quel merveilleux Dieu nous avons. Je sais pas vous, mais je me sens vraiment en paix. Je me sens bien. Et j'aimerais, oui, vivre un moment de prière avec vous. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à Dieu en cet instant?
Avec plaisir. Ouais. Ouais, merci infiniment, Seigneur, pour ta venue. Ouais, Seigneur, j'aimerais nous confier en toi, que tu puisses vraiment venir régner dans notre cœur. Viens régner dans notre vie, Seigneur. Utilise-nous pour faire briller ta lumière, que nous puissions marcher avec toi, Seigneur. Remplis-nous de ton amour qui puisse déborder, que ta présence dans notre vie soit un sujet de bénédiction aussi pour les autres. Voilà, merci pour cette paix que tu nous donnes et que nous puissions aussi, par ton esprit, la partager autour de nous.
Et merci pour ton amour inconditionnel. Merci parce que, malgré mon cœur d'homme imparfait, mes actes manqués, toi, tu m'aimes d'un amour plus fort que tout et tu restes près de moi.
Amen.
Amen, ouais.
Seigneur, merci parce que tu es venu, descendu jusqu'à nos côtés, planter ta tente.
Amen.
Tu t'es abaissé, tu es sorti de ta condition et aide-nous aussi à aller vers les autres, planter notre tente à leur côté, à nous déplacer vers eux pour les rejoindre là où ils sont.
Moi aussi, j'ai juste envie de dire merci en fait. Merci parce que pour ce que tu as fait, je ressens ton amour et il déborde dans mon cœur. Alors voilà, Seigneur, merci pour ta venue. Amen.
Amen, amen.
Amen.
Et oui, Noël, c'est bien cette occasion dont Pierrick parlait, de se faire des cadeaux. offrir un cadeau, c'est aussi une manière de dire à l'autre qu'on l'aime, qu'on a de l'affection. Et c'est bien ce que Jésus est venu faire pour nous, finalement. Il nous a fait un grand cadeau. Il est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Quoi demander d'autre? Alors voilà, j'aimerais t'inviter, cher auditeur, auditrice, à participer au cadeau que Dieu a fait à l'humanité, en étant toi-même porteur de vie, de paix, d'accueil, d'amour. Et comme a dit Pierrick, Noël, c'est l'occasion d'accueillir Dieu et d'accueillir l'autre, d'aller à sa rencontre, d'accueillir leur joie, leur peine, comme Jésus a fait pour nous. Et donc on peut le faire de plusieurs manières. Par des petits ou grands gestes, tu pourrais, par exemple, envoyer une petite carte avec un message de réconfort ou d'espoir, ou tout simplement inviter quelqu'un à venir manger chez toi.
Ou par vidéoconférence en ce moment.
Oui. Alors avec la Covid, c'est un peu difficile, mais voilà, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais voilà, c'est une manière. Et puis peut-être t'inspirer du témoignage de Brian et distribuer des vivres, des cadeaux à ceux qui sont dans le besoin. Oui, bien sûr, ceci, ce sont que des idées, Mais j'en suis sûre que si tu as vraiment l'envie de le faire, bah Dieu t'inspirera le moment venu. Donc ouais, je t'invite à remplir ton Noël de solidarité, d'entraide, de paix et de beaucoup d'amour. Ouais.
Dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre.
Merci, merci à tout le monde. C'était vraiment un immense plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Merci à toi, Romina. Merci à toi, Amandine, pour vos interventions. Merci à toi, Pierrick. Merci de nous avoir fait voyager à travers cette série d'épisodes sur la nativité du Christ, cette fête de ce Dieu qui se révèle à l'humain et souhaite collaborer avec nous. Merci à toi.
Merci.
Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice. Je te remercie de nous avoir accompagnés et je te souhaite d'ores et déjà une belle semaine. Ciao, ciao!
C'était le Culte Espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.